C'est le temps de faire le tour de l'actualité canadienne francophone avec le rédacteur en chef de Franco-Presse, Julien Caillouette. Julien, bonjour.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, une perte nette de 107 unités où il est possible de travailler en français au ministère de la Défense. C'est Franco-Presse qui sort ça.
Oui, puis on en a parlé un peu la semaine dernière, puis on a continué nos recherches un peu, fait que j'ai reçu des chiffres plus précis la semaine dernière du ministère de la Défense nationale concernant justement le nombre d'unités où il y a eu des changements par rapport au droit à la langue de travail. Puis, selon les chiffres du ministère, la nouvelle directive a fait passer 174 unités du bilinguisme à l'anglais,
ouais,
et 29 vers le français. Mais à travers de ça aussi, il y a des unités qui étaient unilingues et qui sont devenues bilingues. Et là, on nous dit qu'il y en a eu 67 qui sont devenues 67 unités anglophones qui sont devenues bilingues. Donc, il y a quand même un certain gain d'unités qui peuvent utiliser le français. Et 78 unités francophones donc, qui sont devenues bilingues. Donc, en tout ça, si on enlève le gain de 67 unités bilingues et la perte des 174 unités qui sont passées du bilinguisme en anglais, ça fait une perte nette de 107 unités où on pouvait utiliser le français dans tout le système du ministère de la Défense et des Forces armées. Il y a aussi, jeudi dernier, juste après qu'on se soit parlé, le ministère de la Défense a annoncé qu'il demandait une révision de cette politique-là. Donc, on peut s'attendre ils veulent analyser l'impact que ça a eu. Est-ce que le français est moins présent? Est-ce que ça limite les droits? Il y a la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui a publié un communiqué après, très rapidement, en disant qu'il avait rencontré justement le ministre la veille et qu'il était content de cette décision-là. Mais il aurait quand même aimé avoir une étude d'impact sur les directives, voir qu'est-ce que ça avait fait aux communautés touchées par le changement. Un des exemples qu'il donne, c'est par exemple, c'est qu'il y a des villes autour des bases militaires qui étaient désignées bilingues qui ont fait des efforts pour avoir des services en français pour les familles des soldats francophones. Donc, il n'y avait plus besoin. Si le français n'était plus une langue de travail dans cette base-là, par exemple, est-ce que cela a eu un effet? Et finalement, depuis hier, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de la Chambre des communes où un groupe demande carrément le retour au régime linguistique d'avant janvier 2025. Puis on dit qu'il ne faut pas attendre que l'examen soit fait, ça va être trop long, puis la politique aura le temps de s'implanter. Il faut vraiment reculer, puis ben, en moins de 12 heures, la pétition aura recueilli plus de 1000 signatures.
Puis là, il y a une campagne, en plus de ça, pour faire du drapeau acadien un emoji. C'est l'Acadie Nouvelle qui nous dit ça aujourd'hui.
C'est les artistes acadiens Julien Robichaud et Alexis Béliveau qui ont eu cette idée-là à l'approche de la fête des Acadiens, hein, qui était le 15 août, ce samedi dernier. Ils ont lancé une campagne en ligne afin que le drapeau acadien soit inclus dans les emojis standards, là, dans ce que vous avez sur vos applications, votre téléphone. Après quelques recherches, ils ont trouvé la compagnie avec qui communiquer, l'organisation qui s'appelle Unicode, qui gère cette bibliothèque-là d'emojis communs. Puis, cette bibliothèque-là contient 250 drapeaux, mais le drapeau acadien n'est pas là, évidemment, le drapeau acadien n'est pas là, évidemment, mais le drapeau québécois et franco-ontarien ne sont pas là non plus, soit dit en passant. Ils ont donc décidé d'ouvrir un site web, puis ils ont lancé une pétition dans l'objectif de déposer une demande officielle. Ils espèrent obtenir 10 000 signatures pour faire la demande. Puis il y en avait déjà 2500 à peine 12 heures après le lancement du site. Fait que pour ce cinéaste et ce musicien-là, c'est un peu une bataille de génération parce que c'est leur génération à eux qui utilisent plus ces choses-là. Puis apparemment, c'est plus compliqué si on veut parler de fierté acadienne. En emoji, il faut utiliser souvent le drapeau français avec une étoile où il y a d'autres techniques. Celle-là, c'est la plus simple apparemment. Ils ne sont pas pressés de finir le projet. Ils espèrent obtenir les signatures. Ils vont prendre leur temps pour obtenir les signatures et des lettres d'appui pour leur idée.
Oui, puis il me semble qu'ils en créent de moins en moins des emojis, là. C'est ce que je lisais. Mais en tout cas, sait-on jamais, hein, les choses, ça peut toujours changer. Il y a l'état des hôpitaux en Ontario. Ça serait une bombe sur le point d'exploser. Vraiment, c'est dans le droit?
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une manifestation du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario qui est prévue devant un hôpital d'Ottawa pour dénoncer une coupe de 100 postes dus, selon l'hôpital, au financement insuffisant de la province. Ce même conseil-là a fait une conférence de presse la semaine dernière pour affirmer que le système de santé était sur le point de couler sous la pression. Donc, où est une bombe, comme on dit. Il y aurait besoin de 355 millions de dollars supplémentaires par année et de 5 300 travailleurs de plus à la grandeur de la province. Le conseil nie pas que le gouvernement a augmenté le financement dans le système. Toutefois, on dit que l'augmentation aurait été de 3,3 % par année, alors que les coûts d'opération des hôpitaux ont augmenté de 6,5 % par année. Selon le conseil des syndicats, sur le terrain, les conséquences, c'est les hôpitaux qui sont occupés à 100 % une augmentation du temps d'attente pour différentes opérations et les urgences, et des employés surchargés de travail qui s'absentent plus souvent.
Ouais.
Le conseil a aussi parlé du virage vers le privé qu'a pris l'Ontario depuis quelques années, notamment pour les opérations du genou et des chirurgies de la cataracte. Selon leurs calculs, ça n'a pas vraiment contribué à réduire le temps d'attente pour les chirurgies de la cataracte, puis les interventions au privé coûteraient deux fois plus cher. Les cliniques privées ne prennent pas des cas complexes. Quand il y a des complications, bien, c'est quand même le système de santé public qui doit en prendre charge.
J'ai l'impression que plus ça change, plus c'est pareil dans le dossier de la santé. On va aller maintenant du côté du Franco, la vérité historique fracture la communauté franco-albertaine.
Oui, le Franco présente un important dossier sur une controverse qui dure depuis quelques semaines en Alberta. Le campus Saint-Jean, qui est l'université francophone qui opère sous l'égide de l'Université de l'Alberta, a commencé à faire des travaux de rénovation et de réfection. Puis, à travers de ça, ils ont retiré certains artefacts liés à la francophonie. L'un des retraits qui marque le plus les esprits, c'est le retrait d'une murale qui était dévouée à l'histoire de la francophonie albertaine, qui a été complètement recouverte. Donc, elle n'est plus visible, on ne peut plus l'observer. Elle n'a pas été conservée non plus ailleurs. On ne l'a pas démontée, on l'a laissée là, puis on a mis du revêtement par-dessus. Du côté des organismes francophones, il y a particulièrement la société historique franco-albertaine. Ils étaient très déçus de ne pas avoir été consultés par l'université avec tout ça. On dit qu'on aurait pu trouver des façons de conserver les pièces. Donc, les exposer parce qu'il n'y a pas de musée spécifiquement pour la francophonie en Alberta. Ce qu'il y avait au campus Saint-Jean, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un musée. Du côté du campus, ce qu'on dit, c'est que ça fait partie des efforts de réconciliation du campus. Il y a des recherches qui ont été faites avec l'aide de la commission de vérité et réconciliation qui aurait révélé que plusieurs oblats, les pères oblats, les religieux qui ont entre autres fondé le campus, qui ont travaillé pendant longtemps, avaient aussi des liens très serrés avec des pensionnats autochtones. Donc, pas toujours des bons liens ici. Donc, on a Philippe Poirier, le responsable des relations externes, qui dit que le campus veut offrir la meilleure expérience éducative et culturelle possible aux étudiants et un meilleur environnement de travail pour les enseignants et le personnel. Et tout ça signifie qu'ils ne veulent pas oublier le passé, mais qu'il faut quand même avoir la responsabilité de reconnaître certains torts historiques. C'est ce qu'ils essayent de mettre de l'avant. Donc, tout ça, c'est juste une petite partie du dossier. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ces deux, trois textes sur le site web du Franco.
Et puis, le spin-in, fragile institution culturelle dans l'Acadie Nouvelle.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je savais pas que c'était encore possible de louer des DVD au Canada, mais apparemment, il y a environ 10 endroits où c'est encore possible. Il y en aurait un à Toronto et l'Acadie Nouvelle nous en présente un à Moncton qui s'appelle le Spinit. Je précise tout de suite que le magasin de Patrick Parizé n'est pas rentable grâce à la location de DVD. Il l'est grâce à la vente de vinyles, de jeux vidéo puis de figurines liées à la culture des jeux vidéo et des dessins animés, je suppose. Il compte quand même 40 000 DVD accumulés au cours des années que les clients peuvent aller louer. Puis, comme je disais, cette partie-là n'est pas rentable depuis plusieurs années, donc Patrick Parizé songe peut-être à continuer à les garder quelque temps, mais il aimerait utiliser peut-être cet espace-là de façon plus rentable. La collection offre quand même quelques avantages. On peut C'est vrai qu'on peut voir beaucoup de choses, beaucoup de films en ligne maintenant, mais il y a certains classiques qui sont plus durs à trouver sur les plateformes de numériques. Puis, si on n'est pas abonné à la bonne plateforme, ben, on ne peut pas nécessairement écouter un titre qu'on aimerait voir. Il y a quand même des passionnés qui continuent de fréquenter son magasin. Là, il y a des gens qui vont louer des films encore toutes les semaines, dont Maurice Basque, qui, pour qui Spinette, c'est une institution culturelle qu'il faut préserver.
Bon, ben écoute, les DVD reviennent, c'est quoi les longs jeux? On dit les 33 tours, hein, ouais, les vinyles, ça revient aussi. Fait que c'est Back to the Future, Julien. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bonne semaine.
Au revoir.